France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, c'est le moment de l'apéro. Je reçois au bistrot l'un de nos plus grands réalisateurs français. 30 films, et pourtant il a commencé gamin dans des slips en laine, à pompons. Si vous connaissez sa filmo, vous voyez de qui je parle. Bon, si je vous dis les bronzés, c'est râpé. Oui, oui. C'est Patrice Lecomte.
Bonjour.
Bienvenue dans mon bistrot.
Eh oui, c'est bien, on va commander des alcools forts.
Mais oui, on est samedi
non.
soir.
si ça peut me rendre ma voix.
Ah, est-ce qu'il y a un grog, il fait chaud?
Ouais, c'est vrai que j'ai plus 22 ans, mais là j'ai carrément une voix de vieux. Ça m'enquiquine. Ma voix me vieillit.
Bon, on ne sait pas si cette émission va pouvoir se faire, mais vous le saurez très très vite.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Je suis impatiente. On va parler de votre sixième roman, déjà, La Tentation du Lac. On va parler de vos films et de votre carrière. Et alors, pour la carrière, si je remonte au tout début, j'ai vu que vous aviez été le chauffeur de Michel Simon sur un tournage. Alors, monument du cinéma de l'avant et de l'après-guerre.
Vous parlez de moi, là?
Oui.
Ah, pardon.
Avec Louis Jouvet, quand vous tourniez avec Jouvet, bien sûr. Non, Michel Simon, c'est quand même un monument important, donc une rencontre importante, même quand on est son chauffeur, vous discutiez avec lui, c'est une source d'inspiration.
Oui, alors c'était assez marrant parce que j'étais assistant, donc j'étais devant, j'avais pas une casquette ni un costume, et il s'asseyait derrière, on ne discutait pas. Et on descendait la rue Saint-Denis, c'était assez folklorique, les rencontres avec les prostituées. Et puis,
était connu pour ça, pour fréquenter les bordels.
Moi, je m'arrêtais tous les 50 mètres pour qu'il salue.
Attendez, pour qu'il salue, il disait juste bonjour.
Non, les filles entraient dans la voiture, se penchaient sur lui, l'embrassaient. Ah oui, on perdait du temps.
Ah oui, vous aviez quel âge?
J'étais sorti de l'école de cinéma et je devais avoir, 21, 22.
Oui. Ah, c'était folklorique.
Oui. Alors moi, j'étais au volant, rouge comme une pivoine, évidemment, parce que les filles étaient entreprenantes. Et ce qui était assez marrant, c'est que j'ai commencé sur la pointe des pieds au cours de nos trajets à parler de cinéma avec lui, des films, de ses films. Et puis un jour, je l'attendais au bas de chez lui, il est descendu et il est monté devant. Et on a continué à parler cinéma. Et je me suis dit, si Michel Simon monte devant, ça veut dire qu'il ne me prend pas pour un branleur, quoi.
Ah ouais. Et qu'il vous remplace par les filles de la rue Saint-Denis?
Non, on ne prenait pas tout le temps cet itinéraire. J'avais trouvé un autre itinéraire qui nous retardait moins.
Je ne regrette pas de vous avoir lancé là-dessus. Aujourd'hui, le dernier opus en date, signé de votre plume, c'est votre sixième roman, La Tentation du Lac, aux éditions Artaud, avec une très jolie couverture signée Blutch. Ça, c'est l'homme de BD, le passionné de BD, le dessinateur que vous êtes aussi. Dans La Tentation du Lac, votre anti-héros, Rodolphe, il est scénariste. Il se barre de Paris pour s'installer en bord de lac à Aix-les-Bains, pour ne rien faire. C'est ça le but. À part des croisières sur le lac, des ronds de fumée allongés sur son lit avec sa clope, quelques rencontres tout de même, dont un pêcheur qui ne pêche pas. À un moment, il consigne qu'il est en train de vivre le dernier scénario qu'il a écrit d'un film qui n'a pas vu le jour. Patrice Lecomte, donc vous vous amusez à écrire en roman un scénario qui est absolument impossible au cinéma.
Oui, et en tout cas, il n'y a pas de danger que j'en fasse un film. Mais c'est ce qu'on appelle une mise en abîme. À Télérama, ils écrivent ça, mise en abîme. En fait, ils ne l'ont pas écrit non plus.
Ils n'ont pas parlé de votre livre, Télérama?
Je sais pas, je suis...
Vous avez toujours une petite dent contre Libé, Télérama, tout ça, non?
Non, Télérama, j'ai aucune dent. Ils ont parfois écrit des choses agréables sur mon travail. Mais dans Libé, jamais. Ils ont toujours trouvé que ce que je faisais était nul. Mais je pense qu'ils l'avaient décidé avant de voir ce que je faisais.
Mais revenons donc à ce Rodolphe, votre anti-héros. En vous lisant, je vous voyais apparaître. Je me suis fait une idée de Rodolphe. Je voyais aussi apparaître Jean Rochefort. Vraiment, quand je lis, je me dis, est-ce qu'il vous habite encore dans ce pétage de plomb contenu?
Il
y a un peu de lui là-dedans, non? Le personnage de Rodolphe.
En écrivant ce livre, je n'ai jamais pensé à Jean Rochefort. Mais vous n'avez pas tort non plus, c'est pas faux.
Il disait qu'il était votre double en plus vieux, donc il y a quand même, dans l'esprit et l'humour, il y a quelque chose de très
Jean-Pierre Léo était François Truffaut en plus jeune. Rochefort, c'était mon Antoine Douanel en plus vieux, un peu. Parce que côté pétage, non pas pétage de voix, mais côté pétage aussi, mais côté pétage...
Vous avez fait la nouba hier soir.
Mais non.
Mais oh, Patrice, avec une voix pareille.
J'étais dans le TGV.
Vous avez fumé, vous avez bu.
Vous avez vu des gens dans le TGV faire la nouba, vous déjà?
Non, non, je vous crois.
J'étais dans le TGV, j'ai mangé un sandwich triangulaire.
Vous avez taché votre pantalon.
Oui, parce que le sandwich triangulaire est très agréable à manger, à condition d'être penché en avant.
Donc je vous récupère dans un état avec un pantalon sale et une voix cassée. Mais c'est pas grave, c'est Patrice Lecomte, je suis très heureux.
C'est mon côté, Patrick Bruel.
Oui, c'est ça. Ouais, donc il y a un côté double avec Rochefort, donc c'est peut-être moi, en vous lisant, qui me fait cette idée. Et pourtant, ça avait mal démarré, votre rencontre avec Jean Rochefort. Dans les WC étaient fermés de l'intérieur, premier long métrage, scénario de Gottlieb. J'ai l'impression que ça s'est pas super bien passé au départ entre vous.
Non, pas super bien passé. Et je suis anéanti que vous évoquiez cette chose-là.
Ah oui ?
Non, mais non.
Ah, je voulais pas vous faire de peine.
Mais non.
Ah, c'est une blague. Mais je me fais avoir par votre humour, j'adore.
Depuis, c'est cicatrisé, mais j'en ai toujours voulu. Même si j'ai fait 7 films quand même avec lui, je suis pas maso. Et on a fait des films qu'on a adoré faire ensemble. Mais au fond de moi, dans un petit coin de mon disque dur, il y avait toujours ce souvenir assez cuisant, cruel.
Ouais, parce que c'est la première rencontre, donc c'est fondateur. Même si après on vit une relation.
Oui, mais enfin, il a... Juste pour se résumer, c'était mon premier long-métrage. J'avais fait des courts-métrages, pas mal. Et puis d'un seul coup, je me retrouve sur un long-métrage qui était mon rêve depuis toujours. Et au bout d'une semaine de tournage, avant même la fin de la première semaine, j'adresse la parole à Jean Rochefort pour lui expliquer quel plan on allait faire. Et il me coupe la parole. Il me dit « Patrice, ne me parle pas, ne me parle plus jamais, je suis anéanti d'avoir signé ce film. » Eh bien, ça donne pas le moral pour terminer.
Ah ouais.
Mais bon...
Vous vous êtes réconcilié comment, alors ?
Eh bien, on ne s'est pas vu, pas parlé, rien. Moi, je continuais à le voir dans les films des autres. Lui, je ne sais pas s'il voyait mes films. Et puis un jour, j'ai eu le projet de ce film qui s'est appelé « Tandem ». Et je me disais, c'était l'occasion rêvée pour prouver à Jean Rochefort qu'il s'était trompé sur mon compte.
Ouais.
On a sa petite fierté, n'est-ce pas ?
Bien sûr. Film culte aujourd'hui, donc... Ouais. Chin-chin.
En espérant que l'orange pressée va huiler tout ça.
Ouais,
j'aurais peut-être dû boire un verre d'huile.
L'huile de foie de morue. Rodolphe, donc le héros de la tentation du lac. Il organise sa disparition, il reprend sa vie à zéro dans un ailleurs, donc c'est Aix-les-Bains, pour une durée indéterminée. Ça s'appelle la tentation du lac. J'imagine donc que c'est votre tentation, mais assouvie par la littérature.
Rodolphe, il a de la chance parce qu'il n'a pas vraiment d'amis, il n'a pas de famille, de femme, d'enfants, etc. Donc il peut s'en aller sans prévenir personne. Et moi, j'en rêve tout le temps. Je déteste pas du tout la vie que j'ai, loin de là. Mais régulièrement, je me prends à rêver, à penser à des journées au cours desquelles on aurait de compte à rendre à personne, où on serait libre dans une ville qu'on ne connaît pas, qu'on découvrirait.
Une tentation, à mon avis, assez universelle, non ?
Alors justement, je me suis rendu compte que ce Rodolphe, cette tentation de disparaître, elle était enfouie en chacun de nous.
Oui.
Surtout quand on a des vies pas trop pidantes, mais trépidantes quand même, et qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter ce truc-là ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas débrancher tout, s'en aller ?
Un moment de la vie d'un scénariste qui ressemble de plus en plus à celle du personnage du scénario qu'il a écrit. C'est ça, des cœurs du livre. Parmi tous les personnages que vous avez écrits ou mis en scène, il y en a un qui vous ressemble le plus, parmi tous vos films.
Ah, je pourrais vous répondre quand vous aurez vu mon prochain film.
Teaser. Oh là là.
C'est dingo.
C'est vrai ou vous me faites marcher ?
Non, c'est vrai. C'est vrai chouette. Que je ne vous fais pas marcher. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas un personnage précis qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, qui est une espèce de moi plus ou moins masqué. Mais dans tous les films que j'ai faits, il y a un peu beaucoup passionnément de moi-même.
Par exemple, dans Le mari de la coiffeuse, qui commence avec une hilarante considération sur les slips en laine à pompons.
Ça, j'en ai porté.
Ça s'est senti, ça se sent quand on voit le film.
Ah oui, mais et alors, à la suite de ça, s'est créée non pas une amicale du slip en laine.
Oh, c'est dommage.
C'est dommage, mais c'est limite. Il y a un club, parce que j'ai rencontré plein de gens, de ma génération donc, qui me disaient, mais moi aussi j'ai eu des slips en laine qui ne séchaient pas, on était obligé de marcher les jambes écartées tellement ça irritait l'entrejambe, etc. Donc les slips en laine, je pensais avoir été un des rares à avoir porté des slips en laine. Et en fait, non, on était très nombreux. D'où l'amicale possible.
À revoir, donc dans Le mari de la coiffeuse, c'est la scène inaugurale. Patrice Lecomte, est-ce qu'en écrivant La Tentation du Lac, avec un personnage qui a grandi en province, qui vit à Paris, puis qui finalement revient en province, vous reconnectez aussi avec, avec l'adolescent que vous étiez et qui a grandi à Tours ?
Oui, moi je suis provincial et fier de l'être. Je ne me sens pas du tout parisien. Je suis né à Paris, ça dit.
Ah oui.
Mais je crois que j'y suis resté 3 semaines. Donc on m'a emmené ailleurs dans un landau ou je ne sais pas. Et donc je ne me sens pas parisien du tout. Les grandes villes m'affolent un peu. Tours n'est pas une ville bidonnante vraiment. Mais comme c'est à Tours que j'ai fait toute ma scolarité, qui n'est pas non plus une chose bidonnante, eh ben c'était cohérent. L'arrivée à Paris, à belle lurette, était très excitante. Tous les cinémas, tous les trucs, tous ces trucs à faire, le métro, cette effervescence dingue, dingo, ça me plaisait beaucoup. Mais ça ne me plaît plus autant. Quand je quitte Paris, je ne regrette jamais Paris.
Vous vous reconnectez donc un peu avec cette enfance, cette adolescence. Un papa gynécologue et une maman pionnière de l'accouchement sans douleur.
Oui.
Ah, waouh.
À cette époque-là, l'accouchement sans douleur commençait à exister. Et ma mère préparait les femmes, les parturientes, les femmes enceintes à l'accouchement sans douleur. Et donc, elle assistait mon père, qui était... Et alors, il y avait un petit tableau familial assez charmant, que vous allez, en fermant les yeux, imaginer tout de suite. Quand ma femme a accouché de nos 2 filles, elle avait confiance dans son beau-père, mon père, donc. Et elle s'est dit, ben voilà, j'aimerais être suivie par lui. Donc, le jour de l'accouchement, il y avait dans la salle d'accouchement, il y avait mon père, ma femme, forcément, ma mère... Moi, un peu impuissant, paradoxe, et les larmes aux yeux, évidemment,
ouais.
Et personne d'autre. Donc c'était mon père, ma mère, ma femme et moi. Et puis un petit bébé qui est devenu une grande fille maintenant, Marie. Et puis après, il y a eu Alice dans les mêmes conditions.
Ça c'était alors marrant. Ah oui, donc le grand-père a accouché.
Oui.
Le grand-père a accouché, on peut rester là-dessus.
Mais... Hein, le grand-père a accouché, point.
Oh waouh. Ouais. Pour lui, ça a dû être, ça a dû être spécial quand même.
Il avait encore moins le droit à l'erreur.
Ah, oui, c'est sûr. Et la passion du cinéma, elle est née à Tours. Vous disiez qu'il ne se passait pas grand-chose, mais...
Non, mais elle est née à Tours parce que déjà mon père était très cinéphile. Il allait énormément au cinéma, c'était son loisir numéro un. Et à Tours, il y avait en plus des salles de cinéma, de ciné-club, arrêts, et tout ça. Il y avait un truc vachement important qui était le Festival international du court-métrage. Maintenant, il y a des festivals. Mais je sais.
Ah là, je me fais avoir à chaque fois. Vous l'amenez bien.
En revanche, on dit des chantiers navaux.
Oui, bien sûr, ça oui.
Et en Bretagne, quand on dit au revoir à une seule personne, on dit qu'est naval. C'est ça, en fait.
Vous avez tout bon.
Très bien.
Je n'ose plus rien dire.
Maintenant, il y a des festivals du court-métrage un peu partout, mais à l'époque, il y en avait à Tours et nulle part ailleurs. Et c'était un événement formidable parce que il y avait des... C'était quand même les films de Roman Polanski, Robert Enrico, Agnès Varda...
Enrical, on dit, je pense.
Enrical, oui, c'est vrai.
Ouais, mais ce genre de festival en région... De court-métrage, c'est justement ce qu'aujourd'hui le pouvoir essaye de couper dans les budgets.
Ah oui, ça, aujourd'hui, la situation est, pour les festivals, la situation est moins rigolote. Oui. C'est vrai que ça coupe beaucoup, mais à l'époque, si on se replace à ce festival, je ne sais plus comment dire, à ce festival de court-métrage, on a vu des films formidables. Et moi, je me disais... que c'était plus envisageable de rêver de cinéma quand on voyait des films de 6, 8 ou 10 minutes. Mmh. Je me disais pas, je peux en faire autant, mais ouais, c'était envisageable.
Ouais, ouais. Et est-ce qu'à la maison, vous écoutiez le jeu des 1000 francs?
Ah bah oui.
Ah ouais.
Ah là.
Ouais, voilà.
Et oui, oui, on rentrait à midi déjeuner pour repartir en cours. Et de 1h moins le quart à 1h, c'était silence radio, c'est le cas de dire, pour écouter.
D'ailleurs, dans votre livre, La Tentation du Lac, il y a quasiment tout un chapitre sur le jeu des 1000 euros.
Euros présenté... ouais. Non, euros. On va arrêter avec ça.
Un spaghetti, des spaghetti. Un scénario des scénarii, en revanche, ça on est d'accord. Présenté par Nicolas Stoufflet, où vous rendez hommage d'ailleurs à ce jeu, puisque vous rappelez les prédécesseurs et un petit peu l'historique et tout, on sent que ça vous tient à cœur. Et bien sûr, Tandem, qui n'est pas inspiré que du jeu des 1000 francs, mais Tandem, c'est quand même beaucoup ça. Le film avec Jean Rochefort et Gérard Jugnot. Michel Mortez, Jean Rochefort, animateur vedette, dit « Il faut savoir s'arrêter au sommet avant la chute ». Vous, vous n'avez jamais eu besoin de l'appliquer, ça, en fait?
Non, mais quand on est porté par un truc qui nous enthousiasme, on n'a pas la lucidité de se dire « ce serait mieux que j'arrête maintenant ». Non, c'est pas possible.
La Tentation du Lac, votre livre, me fait me demander à quel moment de votre vie vous auriez eu besoin vraiment de calme. Vous avez dit « maintenant, j'adorerais ». Mais est-ce qu'il y a eu un moment dans votre carrière où vous étiez prêt à tout claquer et partir?
Il y a des moments quand on sort d'un échec cuisant, et je sais de quoi je parle, on s'allonge sur un canapé, on fume des clopes, un peu comme Rodolphe, on regarde le plafond, et on a envie d'être ailleurs, franchement. Je ne suis pas parano, mais quand je fais un film, le film sort, et que c'est en céphalogramme plat, parce que les entrées sont nulles, quoi. Enfin, sans être parano, si je marche boulevard du Montparnasse, j'ai l'impression que tous les gens que je croise sont au courant de mon infortune. Donc je rase les murs, le cache, c'est nul, complètement nul, parce que personne n'est au courant des entrées. Donc dans ces moments-là, c'est vrai que de disparaître de la circulation, c'est tentant. Hein.
Et Rodolphe, votre héros qui disparaît de la circulation, il décide de ne plus être sentimental. Vous le conseillez aux gens, ça?
Non. Non, parce que je vous parlais tout à l'heure de l'Amicale des slips en laine.
Oui.
Et maintenant, je vais vous parler d'un autre club dont je suis le président, c'est le Club des Sentimentaux.
Oui. Mais il existe vraiment? Il y a combien de membres? Je peux adhérer?
Oui, on sera deux.
Ok. Ah, super.
Oui.
Allez.
Non,
on dépose les statuts. On y va.
C'est pour ça que quand Rodolphe déclare qu'il ne veut plus être sentimental, c'est peut-être parce qu'il l'a trop pété. Et que d'être trop sentimental lui aurait joué des tours, qu'il essaye de se faire une petite armure, ce que je trouve dommage. Là-dessus, je ne suis pas comme Rodolphe.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Ce soir, je chante La Force du Destin à l'Opéra Bastille. Et je crois que je vais annuler.
Celle-là, je vous ai vu arriver. Mais c'est pas souvent.
Mais je peux vous avoir une place si vous voulez.
Des fois, vous allez très 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 loin dans les histoires quand les gens y marchent.
Ah oui,
Vous pouvez partir dans un délire très longtemps. Mais quoi.
Je me suis rendu compte d'un truc. Quand vous annoncez une chose avec le plus grand sérieux du monde, c'est fou ce que les gens sont crédules. Je me souviens, j'avais questionné des amis en leur demandant « Est-ce que vous savez pourquoi le Mont Ventoux s'appelle le Mont Ventoux ?» Il dit non, c'est pas, il savait pas. Alors je dis, parce que au 19e, il y avait des bourgeois qui possédaient tout le Mont Ventoux, et puis ils ont eu un retour de fortune terrible, et ils ont été obligés de tout vendre. Et ça passait de quelqu'un à quelqu'un à quelqu'un, et on disait, on vend tout.
Ça vous est venu comme ça?
Et c'est pour ça que le mot Ventoux s'est appelé Ventoux, ça s'est écrit autrement. Et alors, en face de moi, je voyais des gens dire « Ah, dis donc, quelle histoire, franchement !» Et alors, dans ces moments-là, c'est très gênant. Parce que vous dites, soit je lui dis « Mais non, t'es con, c'est n'importe quoi. » Et à ce moment-là, c'est pas gentil. Il peut le prendre très mal. Vous pouvez passer à côté d'une gifle aussi, tu t'es foutu de ma gueule. Et donc, j'ai jamais dit à ces gens-là que... Et si ça se trouve, ils colportent l'histoire. Et on les prend pour des brêles.
Et après, on va se retrouver avec Stéphane Bern sur France 3 et ce magnifique Mont Ventoux qui vient de Mont Ventoux.
Et puis, ça serait chic.
Faites des fake news.
Ouais.
Et vous non, êtes mais, fiers en plus.
Mais quand vous n'avez pas l'œil qui frise et que vous racontez ça très sérieusement.
Macron, il avait dit plus personne ne dormira dans la rue avant la fin de l'année. Et puis.
Et tout le monde y a cru.
On lui en a cru. Hein. C'est terrible. Patrice Lecomte est avec nous. Patrice Lecomte qui publie La Tentation du Lac, paru chez Artaud. Est-il vrai que c'est votre grand-père instituteur de campagne qui vous a appris à lire ?
Oui. Il m'a appris à la maison à lire, à écrire et à compter. Et qui m'a si bien appris que je vais me la péter deux secondes, après j'arrête. Mais j'ai une très bonne orthographe. Parce qu'il m'a appris à lire et à écrire avec les méthodes de son temps à lui. Mais il était formidable, cet homme-là. Il s'appelait Célestin. C'est pas mal, Célestin.
C'est mignon.
Il était instituteur dans une petite bourgade normande à Salnel. Et à l'époque, les instituteurs, ils n'avaient qu'une seule salle de classe. Mmh. Et donc, ils avaient à la fois les gamins qui apprenaient à lire, ceux qui préparaient le BEPC, etc. Donc, vous vous rendez compte ?
Il vous a tellement bien appris à lire que vous vous êtes mis au dessin. Je rappelle quand même que vous avez travaillé 5 ans pour le magazine Pilote, où il y a vraiment le panthéon des dessinateurs. C'était quelque chose. Hein. Outre Gottlieb, notre dieu à tous, Uderzo, Goscinny, Cabu, Rezer...
Bretéché.
Et Bretéché, bien sûr.
Bretéché, Giraud, enfin, Fred, GB. Enfin... Ouais,
ouais. Claire Bretéché, la seule femme, donc c'était un milieu.
Ouais,
à l'époque,
on était
quand même...
tous amoureux.
Ah, ouais, oui.
Bah oui, comment ne pas l'être ?
Évidemment. Qu'est-ce que vous gardez de cette époque ? Est-ce qu'aujourd'hui encore, ça imprime des choses chez vous de...
Oui. Je suis un dessinateur un peu autodidacte. J'adore dessiner, mais je n'ai pas été faire les beaux-arts ou une école de. Bref. Et donc, dessiner pour moi était un peu laborieux. Et donc, je ne voulais pas dessiner des cases qui servaient à rien. Et donc, au moins, cette période de bande dessinée, ça m'a appris à être concis, à raconter des histoires. Et ça me reste pour les films. Mes films sont jamais très longs. Ils durent 1h30, 1h32... Maigret doit durer 1h28, le mari de la coiffeuse 1h20.
Monsieur Hir, 1h16.
Oui, c'est ça. Je me souviens quand Monsieur Hir avait été en sélection officielle au Festival de Cannes, c'était vers la fin du festival. Et tous les journalistes et tout ça, les festivaliers, c'était gavé des films de 2h, 2h30, des films d'Angelopoulos, que sais-je. Et Monsieur Hir arrive, 1h18, vers la fin du festival. Et les journalistes venaient vers moi en disant « Merci, monsieur Lecomte, vous avez fait un film de conjugaison. » Ok, c'est court, mais est-ce que ça vous a plu ?»« Oui, mais enfin, merci d'avoir fait un film de court. » Et donc, j'étais paré de toutes les grâces parce que j'avais fait un film de court. Et après, j'ai continué.
Monsieur Hir, avec Michel Blanc et Sandrine Bonnel, entre autres. Justement, j'ai une théorie à propos de ce film que j'aime beaucoup. Le film, hein, pas ma théorie.
Non, mais la théorie, je l'aime beaucoup.
On parlait de l'influence de la bande dessinée, des cases, etc. Monsieur Hir, c'est quand même Michel Blanc et Sandrine Bonnaire qui habitent dans le même immeuble, mais c'est deux ailes de l'immeuble qui se font face. Et les fenêtres sont des cases de BD, parce que Monsieur Hir, qui est quand même un peu inquiétant et étrange, observe la jeune Sandrine Bonnaire et elle s'en rend compte et ils se regardent comme ça, ils s'épilent l'un l'autre. C'est des cases de BD, les fenêtres d'immeuble.
En tout cas, c'est des cadres à l'intérieur du cadre, ça c'est vrai. Et je vais me la péter une deuxième fois, mais franchement, après j'arrête. Je suis cadreur sur mes films. Et c'est très important pour moi d'inscrire dans un rectangle les images qui me trottent en tête. Et c'est là où vous avez raison sur Monsieur Hir, c'est qu'à l'intérieur du cadre, il y a des cadres, les fenêtres. C'est très amusant de regarder... Enfin, évidemment, ça fait un peu voyeur, mais...
À Montparnasse, si vous habitez Montparnasse, attention, Patrice Lecomte habite Montparnasse.
Alors, n'habitez pas en face. Non, mais en face, en face à Montparnasse, j'arrivais plus à travailler parce qu'en face vivait un homme nu. Il était nu du matin au soir, tout le temps.
Ah, du matin au soir.
Et il n'avait pas de rideau, rien. Et il vivait comme vous et moi, il mangeait des yaourts, il tapait sur son ordinateur, il faisait son repassage, mais nu, entièrement nu.
Ah ouais.
Et puis un jour, il est parti. Mais ça m'a soulagé.
Est-ce que vous l'avez croisé habillé dans la rue ?
Mais non !
À jamais.
D'abord, j'aurais pas reconnu.
Ah
oui. Mais un jour, je l'ai vu, j'étais scié. C'était Dingo. Dingal, oui, d'accord. Je l'ai vu s'habiller en toute hâte. Je me suis dit, il va sortir. Moi-même, j'ai enfilé un blouson, je suis descendu, j'ai attendu. Eh bien, il n'est jamais sorti. J'en ai fait une pièce de théâtre qui s'appelle « Mon voisin nu ». Et en fait, c'était un type qui vivait nu, et quand il s'habillait, c'était pour ne pas sortir.
Comment est-ce que vous avez vu en Michel Blanc à la fois un Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, et vraiment, il est à la fois un peu séduisant et glaçant dans Monsieur Hir, c'est
oui,
fou, diamétralement opposé comme personnage de cinéma, c'est rare quand même.
Je ne suis pas furieusement adepte du contre-emploi. Tiens, il n'a jamais joué ça, on va lui faire jouer,
non,
ça va être
étonnant. C'était pas calculé comme ça.
Mais Monsieur Hir était un film d'une tonalité que j'avais jamais abordée, et ça me rassurait de faire ce film avec Michel Blanc, d'abord parce que je pensais qu'il serait formidable, et puis aussi parce que c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit le scénario est très bien, mais j'ai jamais fait ça, moi. Et je lui ai dit, ben, moi non plus, on sera deux, viens. Mais c'est très agréable de faire des trucs qu'on n'est pas sûr de savoir faire. Et donc ça nous a rassurés, qui est tout le temps en moi, c'est la hantise de ne pas être à la hauteur. C'est pas une hantise, faut pas déconner non plus, mais c'est la crainte de ne pas être à la hauteur de la barre que je me suis fixée moi-même, en fait. Et pour Monsieur Hir, c'était ça. Pour tous les films, en fait.
Qui a dit « L'humour autorise heureusement la méchanceté »
Je sais pas.
C'est vous.
Ah.
Oui.
Ah bon, donc...
À propos des Bronzés...
On aurait été aux Grosses Têtes, j'aurais pas trouvé.
Ah oui, c'est marrant, ça. Donc, l'humour autorise heureusement la méchanceté. C'est un sujet que je voulais aborder avec vous, forcément, l'humour. J'y pense parce que Les Bronzés, c'est l'adaptation de la pièce de café-théâtre Amour, coquillage et crustacés. Et vous expliquez très bien, à la sortie du film Les Bronzés, dans les interviews, qu'au cinéma, il faut faire sacrifice, il faut gommer la cruauté du café-théâtre. Je me suis dit, il y a une version trash des Bronzés, en fait, à l'origine.
Oui, c'est ce qui est marrant avec les Bronzés, c'est que... il date de quand, ce film ? 78, je crois, un truc comme ça. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on n'aurait plus le droit de faire. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire.
La version cinéma ou la version café-théâtre ?
Ah non, la version cinéma. Mais la version café-théâtre, c'était la même chose.
Ouais.
Ah, oui.
Vous
n'avez
pas tellement gommé, alors ?
Non. J'ai pensé pendant longtemps qu'il n'y avait pas d'humour gentil. Et en fait, ce n'est pas exactement ça, le truc. C'est qu'il y a de l'humour méchant qui est aigre. Et ça me déplaît souverainement. Mais il y a de l'humour qui est méchant, mais qui est malgré tout généreux. Dire par exemple, Patrick Stimsit, enfin je pense à lui, mais à plein d'autres, hein.
Ah oui.
Il raconte parfois des horreurs, mais avec une telle banane, une telle santé.
Il excelle, c'est un des meilleurs.
Et oui.
C'est le mordant, on va dire.
Oui, et il raconte des trucs affreux, mais sans aigreur, avec...
Avec bonhomie.
Oui, générosité.
Oui, c'est vrai. Humour toujours, votre film Ridicule, qui se passe en 1780. Je résume rapidement. Un noble de province qui gravit les échelons à la cour grâce à son esprit et son humour qui lui ouvre toutes les portes. Je pense même que la dernière phrase du film, c'est merveilleux l'humour. Il me semble que c'est la dernière phrase, si je me souviens bien. Ça veut dire qu'à l'époque, l'humour ouvrait les portes du pouvoir, et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je crois pas. Mais je trouve ça... Je trouve ça dommage, mais parce qu'il y a quand même... ne tombons pas dans le « c'était mieux avant », de grâce. C'est à moi que je dis ça. Mais
je vous surveille, de toute façon, je vous surveille.
Mais c'est vrai que l'humour et une autre chose absolument merveilleuse qu'est la fantaisie, toutes ces choses-là, et tant d'autres, du même tonneau, toutes ces choses-là, c'est filoche.
Vous disiez l'humour, peut-être c'est filoche un peu, mais nos autorités... Et ceux qui nous dirigent en général et les politiques perdent aussi cet humour. Ils sont peut-être moins acculturés aussi à ça. Ils devraient relire Pilote, en fait.
Non, mais
ils ont plus cette culture-là, en fait.
Oui, oui, mais... C'est comme... J'ai l'impression que si les hommes politiques avaient de l'humour et s'en servaient, ils auraient peut-être l'impression de déchoir ou de perdre leur temps, ou qu'un homme politique, ça doit être sérieux, limite mon chapeau est dans le derrière, etc., qu'on ne plaisante pas avec les hommes politiques. Et je trouve ça dommage, quoi, mais super dommage, vraiment. L'humour, ils ne connaissent pas, mais il y a aussi un truc qui, moi, m'a sauvé la vie et que j'ai engrangé dans ma manière de vivre depuis déjà pas mal d'années. Savoir reconnaître ses erreurs. Quand est-ce que vous avez vu la dernière fois un homme politique dire « Ok, les gars, je me suis trompé. » Moi, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, ils se trompent, ils savent qu'ils se trompent, mais ils veulent pas le reconnaître. Mais c'est valable pour tous les gens de là, tous ceux qui sont dans ce café aujourd'hui. Enfin, savoir reconnaître ses erreurs, c'est une force inouïe. Quand vous vous trompez et que vous reconnaissez que vous vous êtes trompé et que vous dites « Ok, je me suis trompé », personne ne vous en voudra jamais. Personne ne dira « Fallait pas te tromper, pauvre con. » Personne. On va vous respecter parce que vous avez la lucidité de reconnaître vos erreurs. Et j'espère que quelques hommes politiques écoutent votre émission et qui réécouteront ce final.
Patrice Lecomte, ce prochain film alors ?
Alors, pour tout vous dire, Maigret, mon dernier film, c'est mon 30e film. Et je m'étais dit, c'est bien. Ça.
Même votre autobiographie s'appelle « J'arrête le cinéma ».
Ouais.
C'était publié chez Calmann.
Mais ça, c'était pour que les journalistes aient un truc à bon. Donc, après 30 films, je me suis dit, bon, voilà, ça fait un chiffre rond, j'arrête. C'est bien. Je vais à Aix-les-Bains, ou je sais pas. Et en fin de compte, je vais tourner un film en avril prochain qui sera comme une espèce de post-scriptum. Un truc très personnel. J'en suis tellement ému que ma voix se brise. Un truc très, très personnel et assez bizarre.
Merci beaucoup, Patrice Lecomte.
Merci, Charline. Merci infiniment. Je suis désolé pour cette vieille voix, mais ça ira mieux un autre jour.
Mais oui. Voilà. Bistroscopie, c'est fini. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, Anaïs Reynard à la réalisation, Clément Vuillet à la technique et Pierrick Charles au mixage. Merci au service documentation de Radio France. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée, le dernier samedi du mois d'août à 19h20. D'ici là, portez-vous bien.